Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Midi 13h, c'est l'heure du grand témoin sur Vivre FM. Et votre grand témoin aujourd'hui, Jean-Baptiste Bergès, sera Margot Gilquin. Et on va parler avec elle et avec vous du chômage, le chômage qui touche les femmes de plus de 50 ans.
Benjamin, il faut savoir qu'en France, les femmes de plus de 50 ans subissent de plein fouet la crise de l'emploi. Sans travail, sans reconnaissance, avec moins de 500 euros par mois, elles vivent avec la peur permanente de terminer leur existence dans la rue. Et c'est ce qui s'est passé pour Margot Gilquin. À 48 ans, elle a perdu son emploi. Elle a pourtant tout fait dans sa vie pour obtenir une belle situation. Elle a passé son bac à plus de 30 ans. Tout le monde lui dit qu'elle n'aura aucun mal à retrouver un contrat à durée indéterminée. Et pourtant, depuis des années, son CV reste sans réponse. Et aujourd'hui, elle a prévu et elle a voulu justement sortir de l'ombre pour témoigner. C'est un peu le cri de colère d'une femme confrontée au chômage et à la précarité. On n'en parle pas assez en France. Eh bien, on va en parler aujourd'hui sur Vivre FM.
C'est un cri de colère et d'humour tout à la fois, puisqu'il y aura de l'humour dans ce livre. On va en parler dans un instant. Le grand témoin, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Margot Gilquin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin d'aujourd'hui et vous venez nous présenter ce livre qui s'intitule Le dernier salaire. C'est publié chez Ixo Documents, livre dans lequel vous racontez votre parcours de vie et plus particulièrement l'histoire de cette femme, votre histoire. Cette femme qui a 55 ans ne peut plus trouver de travail, n'arrive plus à trouver du travail. Pour résumer, en gros, votre âge est un handicap pour trouver un nouvel emploi, c'est ça?
Oui, moi j'en suis vraiment intimement convaincue. Je pense que passer 50 ans, et alors passer 55 ans, ça devient vraiment le parcours du combattant, hélas.
Alors on va revenir en détail sur votre histoire. Vous avez envoyé plus de 1500 candidatures, des difficultés pour trouver un travail malgré votre dévouement. Hein. Vous avez été obligé de quitter du coup votre appartement, de changer de vie. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre? Est-ce que c'était un besoin, une nécessité pour survivre?
Non, c'était surtout un gros cri de colère au départ. Et puis ensuite, ça a été un cri d'alarme, parce que j'ai d'abord été en colère, parce que ça m'arrivait à moi, hein, forcément, et que même si je savais que j'allais être en fin de droit, le fait que ce soit acté sur un papier, je trouve que c'est plus douloureux, on va dire. Et puis c'est un cri d'alarme aussi, parce que je me suis dit, mais enfin, je ne suis pas seule, on est des milliers comme ça, il faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, on veut bien... s'aider, on veut bien essayer de faire quelque chose, mais si on ne peut rien faire, il faut qu'on nous vienne en aide quand même malgré tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Vous trouvez que c'est un sujet dont on ne parle pas assez en France, et on peut même citer les médias, les grands médias nationaux, on ne parle pas assez de la difficulté des personnes de plus de 50 ans à trouver du travail?
Non, on n'en parle pas assez, c'est très frileux, ça frémit un peu, mais non, on n'en parle pas assez dans les médias. Et puis j'ai rencontré le conseiller de François Hollande à l'Élysée, j'ai rencontré 3 députés. C'est un sujet qui commence à être abordé parce que les gens commencent un petit peu à en parler. Vous voyez, je ne suis pas un cas isolé malgré tout, mais moi j'ai eu une couverture médiatique plus importante que les autres.
Alors vous racontez ce voyage éprouvant à la quête d'un travail dans ce livre. Vous racontez comment vous devez affronter aussi l'arrogance des jeunes DRH, des personnes qui vous reçoivent et qui sont plus jeunes que vous et avec qui ça se passe pas toujours très bien. Vous racontez comment vous avez essayé de débaucher, de trouver un emploi en envoyant plusieurs CV et la difficulté aussi de garder la tête haute et l'estime de soi-même dans ces périodes qui peuvent être très difficiles.
Oui, mais parce que, vous savez, vous rencontrez des gens qui sont plus jeunes que vous. Moi, j'arrive dans une tranche d'âge où il faut quand même reconnaître que je croise des recruteurs qui ont l'âge de mes enfants, même parfois plus jeunes. Les recruteurs ne sont pas toujours bienveillants, ça a tendance à changer, mais les recruteurs ne sont pas toujours bienveillants. Vous savez, il y a une dame qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Déjouer les pièges des recruteurs », mais ça veut tout dire. Vous vous rendez compte, quand on nous dit qu'il faut être candidacteur, déjouer les pièges des recruteurs, c'est très difficile, et si on n'a pas les règles du jeu en main et qu'on est confronté à des gens qui ne sont plus de notre génération, qui ne sont pas de notre génération, on n'a pas les mêmes codes verbaux, on n'a pas parfois le même code vestimentaire, faut pas avoir peur des mots, on n'a pas la même maîtrise de, comment dirais-je, d'Internet et de toutes ces nouvelles technologies. Donc oui, parfois on peut se rendre un petit peu ridicule, peut-être, je pense.
Vous dites dans le livre que chercher du travail dans les années 2000 n'est pas chercher du travail dans les années 80 et que vous n'étiez peut-être pas forcément armé pour chercher du travail dans les années 2000, justement. Ça, c'est quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé?
Ah non, j'étais pas préparée du tout. Tout avait changé en 5 ou 10 ans. L'apogée d'Internet, cette façon de faire, on ne reçoit plus les gens, ces robots-là qui étudient les CV. Pour moi, tout ça, c'était complètement nouveau. J'avais l'impression d'être dans le sixième sens, hein, ou dans le quatrième sens, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Mais non, c'était vraiment très curieux. Maintenant, je suis davantage armée parce que j'ai été prise en charge, j'ai été formée, j'ai été rompue aux entretiens d'embauche. Donc maintenant, je suis davantage armée, mais maintenant, je suis plus vieille. Donc voilà, on a ce problème-là. J'ai 56 ans et concrètement, on ne me propose plus de poste.
Alors, un long parcours du combattant pour trouver du travail, vous racontez dans ce livre qui s'intitule « Le dernier salaire », publié chez XO Documents. Je vous cite « Ma vie s'est transformée en long Koh-Lanta avec plein d'épreuves et pas beaucoup d'immunité. Vous allez voir, je n'exagère pas. » Alors racontez-nous, Margot Gilquin, à quel moment votre vie a basculé justement, à quel moment vous avez perdu votre travail et pour quelles raisons?
Alors j'ai été licenciée au terme de plus de 10 ans d'entreprise, mais lors de ce licenciement, on m'a dit « Tu verras, tu n'auras pas de difficultés. » J'avais 48 ans, j'étais donc tout à fait disponible, enfant élevé, appartement pas loin de Paris. Donc, et en effet, bon, j'ai été triste d'être licenciée, mais je me suis dit « Bon, 48 ans, ça va, hein, je suis en pleine possession de mes moyens, j'ai une bonne forme physique, je suis disponible. » Et en fait, je me suis rendu compte que non, je me suis heurtée déjà à cette nouvelle technologie. Il était question désormais de job dating, moi je ne savais pas ce que c'était, donc il a fallu que je m'y fasse. Toutes sortes de choses comme ça. Et tout est devenu très très difficile. Quand je parle d'un Koh-Lanta, c'est parce que j'ai trouvé que c'était une jungle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y avait plus de bienveillance. Vous voyez, on ne reçoit pas les gens parce qu'on a un poste à pourvoir, mais on reçoit les gens pour vous dire ensuite que vous faites partie de leur vivier. Voilà, donc je trouve que ça, c'est pas très correct, mais bon, il faut s'y habituer, il faut s'y faire. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais plus, des tas de choses comme ça qui sont déshumanisantes. Et d'ailleurs, en parlant d'humaniser, Madame El Khomri, qui m'a reçue, m'a dit que j'humanisais en fait les choses. Et ça, c'est assez surprenant, vous voyez.
Qu'est-ce qui est surprenant pour vous? Ça veut dire que c'est surprenant que vous vous humanisiez, parce qu'aujourd'hui, le monde du travail est peut-être déshumanisé, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, ça m'a surprise qu'on me dise que j'humanisais les choses, que j'humanisais une situation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, rechercher un emploi, c'est pas Koh-Lanta. C'est un employeur qui a besoin d'un ou d'une salariée. Il expose clairement la situation. On est reçu, on discute ensemble. Un peu primairement, on fait l'affaire, c'est bien. On fait pas l'affaire. Bon, mais écoutez. Voilà, au revoir, merci d'être venu, mais au moins c'est correct. Que là, on a le sentiment d'un abattage, d'un jeu, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est un jeu, il faut être candidat acteur.
Le manque d'humain, c'était aussi important dans votre ancien travail. Vous racontez dans votre livre que lorsque vous êtes fait licencier, vous êtes allé faire un tour chez le président directeur général de la société, qui avait la réputation d'être une personne assez humaine. Et pourtant, là aussi, vous avez été confronté à quelque chose que vous n'imaginiez pas.
J'ai été déçue parce que oui, en effet, là, c'était aussi déshumanisé. C'était comme ça, les choses étaient comme ça et on ne pouvait rien, que ce soit pour moi ou pour d'autres, on ne pouvait rien.
Alors, pour quelles raisons vous a licencié, du coup, Margot Gilquin, de cette société?
Ah, je ne faisais plus l'affaire du jour au lendemain. Voilà.
Mais on peut penser que des personnes qui approchent de 50 ans, on les pousse à la porte aussi?
Je ne sais pas si dans ce cas précis c'était la raison principale, mais oui, ça arrive très fréquemment que passé 50 ans, on vous remercie, on vous dise que bon, vous ne faites plus l'affaire pour telle, telle et telle raison. Il y a forcément un jeunisme qui est bien identifié, qui est bien acté. Et puis parfois on est là depuis trop longtemps dans l'entreprise, on connaît trop de choses, on connaît trop de gens, on connaît trop de situations, vous voyez. Donc. Bon, mais c'est pas vrai toujours, hein. Parfois les gens sont remerciés pour d'autres raisons. Hein. Ça, je peux pas. Moi, je peux pas parler pour tout le monde. Enfin, en même temps, moi, j'ai monté un dossier où, quand même, ça se rejoint assez. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un des députés qui me disait que, à une époque, passé 54, 55 ans, les gens dans les entreprises, hop, on les licenciait. En fait, on leur donnait. Il y avait un plan qui était créé. Ça s'appelait le plan ARP. Et bon, bah, les gens étaient licenciés à 54 ans, 55 ans. Ils allaient au chômage et puis ensuite, bah, ils étaient pris en charge par la retraite, quoi.
Alors vous vous retrouvez du jour au lendemain sans travail, alors que vous racontez dans le livre que vous aimiez travailler, vous aimiez le milieu de l'entreprise, c'était très important pour vous, c'est ce qui vous stimulait. Comment vous réagissez, dans quel état d'esprit vous êtes suite à ce licenciement?
Mais je suis triste, mais je me dis que je vais pouvoir m'en sortir. Donc ça m'abat sur le coup parce que je perds mon bureau, mes collègues, etc. Mais bon, je suis pas la seule hein, dans cette situation, dans l'entreprise. Donc ça ne m'abat pas plus que ça. En tout cas, ça m'empêche pas de me lever, de marcher et puis d'entamer les démarches qui sont nécessaires pour trouver un emploi. C'est la suite qui est pénible, c'est la suite qui est difficile. C'est qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y en a pas d'emploi pour les seniors. Donc là, c'est une guerre. Dehors, c'est la jungle, c'est une guerre.
Il y a eu plusieurs étapes. Première étape où vous profitez un petit peu de votre temps libre, quand même.
Oui, parce que je me dis, bon, plus de 10 ans de bons et loyaux services, assistante de direction, et puis dans le cadre de ce licenciement, j'ai donc 2 mois pour voir devant moi ce qu'elle le dit. Donc j'en profite pour me mettre à jour à la maison de tout un tas de choses, ranger mes affaires, et puis surtout pour être prête pour un nouvel emploi. Parce que ça se passe en novembre, ça, je ne sais plus, en octobre ou en novembre, et moi je me dis, mais en janvier, c'est certain, j'ai trouvé quelque chose, donc autant que je reparte sur de bonnes bases, vous voyez, comme plein d'autres gens le font. C'est ce que j'ai vu aussi dans d'autres témoignages, donc. Mais pour moi, ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait.
Malheureusement, ça devient un parcours du combattant, hein, que vous racontez dans ce livre qui s'intitule « Le dernier salaire ». C'est publié chez XO Documents. Vous devez changer de vie, déménager, partir en province, puisque vous arrivez en fin de droit. Restez avec nous, Margot Gilquin. On revient dans un instant sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin aujourd'hui, et on continue de parler de votre parcours de vie sur Vivre FM.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin aujourd'hui, c'est Margot Gilquin sur Vivre FM qui vient nous présenter son livre intitulé « Le dernier salaire ». C'est publié chez XO Documents. Margot, vous revenez sur ce parcours du combattant pour trouver du travail. Vous racontez que lorsqu'on a 50 ans passés, c'est un réel handicap, l'âge, pour trouver du travail. Vous étiez confronté à des situations assez délicate. On va y revenir tout au long de cette émission. Pourtant, au départ, lorsque vous avez été licencié, vous pensiez trouver du travail et même vos collègues vous disaient que ça allait être facile. Avec cette citation d'un de vos collègues, « T'es pas arabe, t'es pas noir, t'es pas obèse, t'es pas handicapé, t'es pas feignante, alors tu vas retrouver du boulot facilement. » Ça, c'est quelque chose qu'on vous a dit.
Oui, ça, c'est ce qu'on m'a dit le jour où je suis partie, parce que j'étais en larmes et j'étais quand même secouée hein, malgré tout. Et oui, c'est ce qu'on m'a dit avant que je parte. Et ça m'a pas plus rassurée que ça, hein, parce que je voyais pas ce que ça venait faire dans ce licenciement, quoi. Donc, ça m'a pas plus rassurée que ça.
Vous étiez en région parisienne et puis vite, vous vous êtes rendu compte que ça allait être compliqué de trouver du travail et vous décidez de partir, de changer de vie. Pour quelles raisons? Racontez-nous.
Alors parce que j'avais cherché j'avais cherché du travail, j'avais beaucoup de difficultés à en trouver, bien que justement je sois en région parisienne. Donc là je me suis dit qu'il y avait fallait que j'active un petit peu le signal d'alarme. Donc je voulais pas moi me retrouver précaire, vous voyez, dans un appartement avec des loyers non payés, être obligée de partir en laissant mes meubles sur place, comme on dit partir à la cloche de bois, quoi. Moi je voulais rien de tout ça, je voulais partir la tête haute, même si c'était douloureux. Donc une de mes cousines m'a parlé d'une dame qui avait besoin d'une dame de compagnie en échange de services. Et en fait, il se trouve que cette dame, c'était quelqu'un que je connaissais. Et donc, voilà, j'ai pris la décision de partir.
Comment on vit ce changement de vie à presque 50 ans, quitter l'univers dans lequel on a travaillé, on a vécu pendant très longtemps, changer de région, ça n'a pas dû être facile?
Pour moi, ça a été difficile parce que même si c'est une région que je connais depuis que je suis petite, puisque c'est la région de mon père, comment dirais-je? Non, pour moi, ça a été vraiment très douloureux parce que j'ai dû vendre mes meubles, j'ai vendu mon linge de maison, je me suis délestée de tout un tas de choses. Certains y voient une façon de refaire sa vie, de repartir à zéro. Moi, j'avoue que j'avais construit, justement, et que pour moi, c'est plutôt, c'était plutôt une démolition de quelque chose, quoi. Et puis, je quittais Paris, je quittais la région parisienne, et moi, j'y suis attachée à Paris, malgré tout. Donc, non, ça a été assez douloureux. Même si, je le reconnais, je vis mieux maintenant que je suis ici. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. J'ai moins peur. Parce que à Paris, quand j'y retourne, quand je vois les gens dans la rue, alors ça, c'est quelque chose qui me terrifie, hein.
Qu'est-ce qui vous terrifie ?
Ah mais moi, j'étais certaine que j'allais finir à la rue. J'étais certaine, mais vraiment certaine que je finirais à la rue. Et j'en suis toujours certaine. Hein. Je me dis que si je suis plus hébergée, alors là, ça va très mal aller pour moi.
Hein. Ouais, je rappelle qu'en France, quand même, les femmes de plus de 50 ans subissent de plein fouet la crise de l'emploi et que beaucoup terminent à la rue.
Ah oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes à la rue. C'est affreux. Elles essayent de vivre dignement, hein, pour pas faire le trottoir, par exemple. Moi, j'ai vu des femmes tricoter pour vendre leurs petits ouvrages, avoir quelques sous en plus de leur revenu vital, quoi. Hein. Mais c'est incroyable, hein, comme la déchéance peut arriver à une vitesse, mais stupéfiante.
Parce qu'on rappelle qu'elles vivent avec moins de 500 euros par mois, quoi. On peut pas vivre avec ça.
Non, on peut pas vivre avec ça. On peut pas vivre avec ça. Même s'il y a des gens qui nous disent que on a qu'à prendre n'importe quel travail ou autre, le problème il est que tout le monde ne peut pas prendre n'importe quel travail.
Alors Margot Gilles, quand vous êtes descendu dans le sud de la France, dans le Lot-et-Garonne, pour travailler comme dame de compagnie chez une grande tante, une vieille tante, c'est ça ?
Alors, c'est pas vraiment une vieille tante. On l'appelle tante Marthe, mais parce que tout le monde l'appelle tante Marthe.
D'accord. Mais c'était une amie voilà. De la famille.
Oui, c'était une amie de la famille, oui.
Alors, vous essayez de vous reconstruire dans le sud-ouest de la France. Malgré tout, vous continuez à chercher du travail à Paris, en région parisienne. Vous faites les allers-retours.
Alors, je cherche du travail plus particulièrement sur Bordeaux ou sur Marmande. Et puis, oui, je continue à chercher du travail sur Paris, puisque heureusement et malheureusement, je dirais plutôt malheureusement, mais il n'y a que là qu'on arrive à trouver du travail. Mais j'en suis partie parce que j'en trouvais pas. Et que mon livre prouve bien qu'il n'y a pas d'emploi pour les seniors.
Dans quel domaine vous cherchez ? Quelle est votre formation ? On peut parler un petit peu de votre parcours ?
Oui, j'ai commencé comme femme de service dans une clinique où j'étais très heureuse. Et un monsieur m'a dit, vous ne devriez pas rester comme ça, femme de service ou standardiste, vous devriez passer des diplômes. Alors bon, je vais faire vite, mais à 34 ans, après quelques années de secrétariat en intérim ou en petit CDD, j'ai passé un baccalauréat. J'ai fait ensuite un an d'assistante bilingue à la Chambre de commerce et d'industrie. Et ensuite, j'ai passé un BTS, c'est-à-dire que j'ai fait un bac plus 3, on va dire. Voilà. Et donc, j'ai décroché ces trois diplômes. Et voilà, j'ai un bac plus 3. Et maintenant, il m'arrive de donner, mais c'est très, très ponctuel, donc il m'arrive de donner des cours en secrétariat dans un petit centre pour personnes qui sont en contrat de qualification ou en contrat de professionnalisation. Et donc, j'emmène des gens vers le BTS ou le niveau BTS. Donc, sur quelques heures en secrétariat et en organisation administrative. Et
aujourd'hui, comment ça se passe ? Et même après votre licenciement, justement, on a en France le Pôle emploi. Comment ça se déroule ? Vous êtes allé voir le Pôle emploi, on vous a fait faire des CV, plusieurs CV. Est-ce qu'il faut faire plusieurs CV, justement, qu'on est à la recherche d'un emploi ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont proposé ?
Alors, Pôle emploi en région parisienne m'a rien proposé. Mais alors, ce qui s'appelle strictement rien proposé. On m'a inscrite. Et c'est tout. Débrouillez-vous. C'est ça que je signale dans mon livre. Hein. C'est qu'il faut absolument que quand les gens sont licenciés, il faut, mais tout de suite, c'est pas au bout d'un délai de carence, c'est tout de suite, il faut prendre les gens en main. Parce que par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Ensuite, moi, j'ai tapé du pied et j'ai fait le forcing. Donc, j'ai obtenu des ateliers où on m'a réappris à faire un CV. Alors là, il y a plusieurs écoles, donc bon, après, il faut se débrouiller. Et en effet, il faut faire plusieurs CV. Sur Pôle emploi, on peut mettre 5 CV. Donc moi, par exemple, je suis assistante de direction, j'ai mis assistante de direction, secrétaire de direction, secrétaire, hôtesse d'accueil, et puis, je ne sais plus ce que j'avais mis, standardiste.
Donc voilà. Plusieurs CV pour multiplier les chances de retrouver du travail, et au final, aucun rendez-vous pour trouver du travail, ce qui prouve qu'aujourd'hui, c'est difficile de retrouver du travail lorsqu'on a 55 ans. Vous dites dans votre livre que vous êtes battue pourtant, peut-être trop, peut-être mal. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, Margot Gilquin ? Pourquoi, avec le recul, vous dites que vous êtes mal battue pour retrouver du travail ?
parce que je pense que je me suis mal organisée et que je suis partie dans tous les sens. Encore une fois, je reviens sur les techniques de recherche d'emploi à l'ancienne, et maintenant c'est plus du tout comme ça qu'il faut faire. Maintenant je suis suivie par le pôle emploi de Langon, j'ai deux conseillers qui m'encadrent très bien et qui me font faire les choses plus pertinemment. Alors ça ne me donne pas plus de travail pour autant, hein, on est d'accord, mais je m'épuise beaucoup moins à chercher un emploi, c'est beaucoup plus construit, et je reste convaincue que si on faisait ça dès le départ, on serait moins en souffrance dans notre recherche d'emploi.
Ça veut dire quoi, partir dans tous les sens? Ça peut prouver aussi qu'on est motivé pour retrouver du travail?
Oui, on est motivé, mais vous savez, moi, je me suis retrouvée avec des réponses à des offres d'emploi. On m'a proposé d'être animatrice dans un camping. Alors bon, c'est sympa, mais animatrice dans un camping, moi, je sais pas faire, vous voyez. Je sais plus, il y a eu plusieurs réponses comme ça. C'est pas bien. Et à la fin, par désespoir de cause, parce que j'avais tellement besoin de travailler, tellement envie de travailler, parce que quand on cherche un emploi... Moi, je suis divorcée, j'étais toute seule, vous voyez. On est tout seul toute la journée, c'est affreux, ça. Donc, à la fin, je me disais, mais même ramasser, et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais même ramasser, par exemple, des clémentines en Corse, moi, j'aurais bien voulu le faire, vous voyez. Parce que d'abord, bah, ça me faisait faire un... ça me faisait aller au soleil, on va dire, quelque part. Et puis, j'étais avec du monde. Mais j'aurais fait n'importe quoi comme travail. Enfin, n'importe quoi. C'est pas méchant, ce que je dis, mais j'aurais pris tous les travails qu'on m'aurait proposés. J'ai répondu à une offre d'emploi de femme de service dans un hôpital, mais on m'a pas recrutée.
Et comment vous expliquez ça?
On m'a pas recrutée parce que sur mon CV, même si je mets employée polyvalente, si je me présente avec mes diplômes, mais qu'est-ce qu'il y a sur les diplômes? Assistante de direction. Donc on me dit, assistante de direction, on va pas vous faire des ménages. Voilà.
Une chose aussi qu'il faut pas faire et que vous avez peut-être fait, mais vous en êtes rendu compte trop tard, c'est se rendre trop disponible pour le recruteur. Ça, c'est un point sur lequel vous appuyez dans votre livre.
Oui, il ne faut pas se rendre trop disponible, parce qu'en fin de compte, si on se rend trop disponible, comment dirais-je, on ne se fait pas respecter. On est trop dans l'attente, et ça, je le dis avec mes mots de façon très simple, et du coup, les gens font un petit peu ce qu'ils veulent, vous voyez, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et il faut se mettre à égalité avec un recruteur. Le recruteur a besoin de nous. Nous, on a besoin du recruteur, mais le recruteur a aussi besoin de nous. Et moi, je me mettais toujours en position de faiblesse, en fin de compte. J'étais trop dans l'attente. Et ça, maintenant, je ne le fais plus.
Ça, c'est notamment un épisode que vous racontez dans votre livre, lorsque vous avez répondu à une annonce et qu'une jeune femme, beaucoup plus jeune que vous, vous a reçue. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience?
Alors, en fait, cette dame, si je m'en souviens bien, c'est une dame, oui, elle m'avait reçue. Et en fait, elle supportait pas du tout que, par exemple, pour PowerPoint, moi, je maîtrisais pas PowerPoint à l'époque. Et je lui ai dit, mais ça, je peux apprendre. Et en gros, elle m'a dit que j'avais pas à lui couper la parole ou que j'étais trop sûre de moi ou toutes sortes de choses comme ça, vous voyez. Et... J'arrivais pas du tout à me faire respecter lors de cette interview, enfin de cet entretien. J'ai pas du tout pu me faire respecter. Et ça, j'ai appris à le faire après. C'est-à-dire qu'après, j'ai appris à faire des transferts de pression, vous voyez. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à instaurer des silences. Et ça, en général, ça plaît pas trop. Enfin, ou tout au moins, ça fait voir que la personne, elle maîtrise.
Et cette personne avait 20 ans de moins que vous, j'imagine que ça doit pas être évident de se retrouver un recruteur qui est plus jeune que vous et qui vous manque de respect. Comment vous réagissiez, vous, dans quel état d'esprit vous étiez lors de cet entretien?
Ben, j'encaisse. J'encaisse parce que c'est un recruteur. C'est un recruteur et que je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. C'est ce recruteur potentiellement qui va me permettre de travailler et de vivre. Après, c'est à nous d'utiliser des techniques de mise en situation lorsqu'on est face à un recruteur. Après, c'est à nous, justement, d'apprendre toutes ces techniques. C'est ce que dit donc cette dame qui a écrit ce livre. Il faut déjouer les pièges des recruteurs. Mais ça, je l'ai appris trop tard.
Voilà, et ça, c'est des conseils qu'on peut donner à des personnes qui sont aussi dans votre situation. Il y a des choses qu'il faut apprendre, des codes, des nouveaux codes. Essayer de faire avec.
Il faut essayer de faire avec. Il faut ne pas être. Il faut rester humble. Il faut. Mais un recruteur, on doit rester égal à égal, en fait. C'est ce que j'ai appris. Il faut pas être, on n'est pas dans une relation de, comment dirais-je, de pas de soumission, mais d'être trop demandeur, vous voyez. C'est pas de notre faute si on est demandeur d'emploi. C'est pas nous qui souhaitons être demandeur d'emploi. On se met pas dans cette situation, on nous y met. Mais pour autant, on n'est pas coupable. Il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Le recruteur qui nous invite à cet entretien, il a besoin de nous. Alors après, on peut aussi déjouer le piège, parce que moi, j'ai eu affaire à des recruteurs qui se faisaient les dents sur moi. Et j'ai su après par d'autres personnes que ça avait été vrai aussi pour elles. Donc ça, il faut vite désamorcer ça, et il faut vite faire comprendre à l'autre en face qu'on n'est pas dupe. Mais il faut le faire poliment, avec le sourire.
On imagine, Margot Gillin, que toutes ces épreuves ont dû avoir des conséquences sur votre état mental aussi. Restez avec nous, on en parlera dans la troisième partie de cette émission. Vous êtes le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM et on revient juste après la pause.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Il n'y a pas de travail pour les seniors et c'est un réel handicap quand on a 50 ans, qu'on se retrouve au chômage pour retrouver un nouveau poste. En tout cas, c'est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui, Margot Gillin, sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin et vous venez nous présenter ce livre qui s'intitule « Le dernier salaire ». C'est publié chez XO Documents, livre dans lequel vous racontez votre long parcours du combattant pour retrouver du travail après votre licenciement. Et vous avez envie de lever un petit peu le tabou sur ce sujet dont on ne parle pas assez en France.
Oui, j'ai envie de lever le tabou parce que il faut faire quelque chose. Moi, je peux comprendre qu'il n'y ait plus de travail pour les seniors. Je peux le comprendre, je l'ai vu il y a 10, 15 ans, quand les gens étaient débarqués des grandes entreprises. Je vous dis, à 54 ou 55 ans, on les mettait au chômage pendant 3 ou 4 ans, enfin 3 ans, et ensuite, voilà, ils étaient en pré-retraite. Donc ça voulait déjà dire qu'il n'y avait pas d'emploi pour les seniors. Donc il ne faut pas avoir peur de dire qu'on peut peut-être essayer de trouver des solutions. Et on peut peut-être trouver une solution, une alternative à cette situation, plutôt que, comment dirais-je, nous faire vivre ce combat à la recherche d'un emploi qui n'existe pas. On pourrait être tellement utile à d'autres choses. Alors évidemment, ça demande un effort de la part de l'État, peut-être une prise en charge pécuniaire plus importante que les minimums, c'est-à-dire le RSA et les ASS, mais je pense qu'à partir de 55 ans, on pourrait peut-être avoir droit à une allocation, pas gratuitement, mais en échange de services rendus. Vous voyez, par exemple, moi j'ai donné des cours, mais écoutez, on pourrait donner des cours dans des écoles, on pourrait s'occuper d'enfants, on pourrait s'occuper, comme je le fais, de tante Marthe, on pourrait faire des tas de choses. Moi, je pense qu'on pourrait faire ça, et au moins on se sentirait un petit peu valorisé, vous voyez.
Bien sûr, il y a une réorganisation à faire de la part du gouvernement, mais à l'heure actuelle, on peut dire que ce problème n'est pas pris au sérieux.
Écoutez, moi je pense que tant qu'il n'y aura pas eu un exemple, le problème ne sera pas pris au sérieux, non ?
Et puis surtout, on peut imaginer que les jeunes, justement, la nouvelle génération, a beaucoup à prendre des seniors qui peuvent leur transmettre leur expérience de l'entreprise, leur expérience du travail.
Mais oui, on a tellement de choses à donner et puis à donner, à échanger dans la bienveillance. Nous, on n'a pas envie d'être des seniors, on n'est pas des Tati Daniel, hein, on est des gens sympas, on peut travailler, on sait travailler, on peut s'adapter sur des nouvelles technologies et nous, on peut transmettre aussi notre expérience, notre savoir-faire.
D'autant qu'en plus, le mot senior pour des personnes de 50 ans, c'est quand même exagéré, puisque quand même, maintenant, avec l'espérance de vie qui ne cesse d'accroître, beaucoup peuvent travailler jusqu'à 60, 65 ans.
Oui, moi jusqu'à 65 ans. Enfin, si je suis comme je suis maintenant, j'en ai 56. Sincèrement, 65 ans, ça ne me ferait pas peur du tout.
En tout cas, justement, cette épreuve que traversent beaucoup de personnes comme vous, se retrouvent au chômage à 50 ans après une vie très active, ça peut pousser aussi à des moments assez difficiles, tomber dans la dépression. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est quand vous parlez du burn-out. Le burn-out, en revanche, est dans l'esprit de tout le monde réservé aux salariés. Et pourtant, non. Vous êtes la preuve que le burn-out, c'est aussi, ça peut arriver à des personnes en recherche de travail.
Oui, il y a plusieurs personnes en recherche de travail qui ont fait des burn-out parce qu'on n'en peut plus. On est épuisé, on n'a jamais de vacances, on n'a jamais de jours fériés, on n'a jamais de congés parce qu'on ne se l'accorde pas. On se sent coupable. On se sent les rejets, on se sent vraiment les rebuts de la société. Donc on est tout le temps en train de chercher du travail. Moi j'ai une conseillère à Pôle emploi qui m'a dit de lever le pied, hein, d'arrêter parce que j'en faisais trop. et que c'était peut-être pas constructif, mais on n'ose pas s'opposer, on se sent vraiment coupable.
Faut pas s'imaginer que les gens qui travaillent pas, passent leur temps sous la couette ou au bord de la piscine. Non, c'est une recherche active de travail qui pousse à l'épuisement.
Ah mais moi, j'ai jamais été sous la couette ou au bord d'une piscine. Hein. Si je fais ça, c'est parce que je pose des jours de congé auprès de Pôle emploi. Et encore, je me fais violence pour vraiment éteindre l'ordinateur et ne pas me promener avec mes CV sous le bras. J'ai des CV tout le temps avec moi. Hein. C'est pour les amis, c'est pénible à la longue.
Et puis on imagine aussi que face à différentes expériences qui se sont mal passées, puis à force d'avoir des refus, ça peut aussi pousser à la démotivation. Vous avez vécu ça, vous ? Il y a des moments où vous avez eu vraiment envie de baisser les bras ?
Ah, envie de baisser les bras. Alors envie, mais je me le suis pas accordé. J'y ai pensé, on va dire. Mais par contre, je sais que j'ai dû certainement mal gérer au moins deux ou trois entretiens d'embauche par lassitude, par épuisement. J'en suis certaine. Je me suis mal vendue au moins deux ou trois fois. Je pourrais, moi, les identifier dans ma tête. Je vois bien qui. Mais oui, parce que bah, l'épuisement, quoi. On est vidé, on n'en peut plus. Hein. On a tous très mauvaise mine, on est mal coiffé. On fatigue, on n'en peut plus, en fait. Par moments, on n'en peut plus. Oui, ça, c'est vrai.
Aujourd'hui, quelle est votre vie, Margot Gilquin ?
Quelle est ma vie ? J'ai changé de vie complètement. Quelle est ma vie? J'ai de nouveaux amis. Qu'est-ce que je fais? Je continue à faire des vide-greniers parce que c'est là que je m'achète le plus souvent bah, les vêtements de seconde main. Je fais de plus en plus de troc en fait. Hein. Parce que voilà, 16,25€ par jour, mais c'est juste pas... Bon là, moi je suis hébergée, donc ça va, hein, mais 16,25€ par jour, ça me sert à payer les repas, quoi. Et vous voyez, du fait que j'ai travaillé un tout petit peu là dans ce centre de formation, j'ai pas droit à la CMU. Ça aussi, hein, c'est un lieu commun. Les gens s'imaginent que quand on est dans ma situation, on a droit à toutes les aides. Non, mais ça c'est faux. Hein. Moi, j'ai pas droit à la CMU. Hein. On m'arrache les dents une par une. Mes lunettes, elles ont 10 ans.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi.
Non, mais ça, faut le dire aussi. Hein. Moi, j'ai une voiture qui a plus de 30 ans. Quand je la prends, je mets entre 5 et 10 euros d'essence dedans pour ne pas aller trop loin, pour m'obliger à pas avoir envie d'aller trop loin. On sert surtout... Alors, je suis en Sud-Gironde, donc je vais pas me plaindre trop parce que, le temps est clément, il y a de magnifiques promenades à faire, on peut se contenter de peu, vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux dire non, à 56 ans, la vie c'est pas ça, hein, la vie c'est pas se contenter de peu. Moi je refuse. Hein. Il y a tellement de choses à faire, et puis c'est pas normal qu'il y ait des gens qui doivent se contenter de peu et pas d'autres.
Donc là, aujourd'hui, vous êtes toujours en recherche active de travail, vous passez des entretiens ?
Ah non, aucun entretien. Non. Ce matin, j'ai passé 4 heures sur l'ordinateur à répondre à des offres. Je n'ai jamais aucun entretien. C'est fini. Là, j'en ai plus depuis 2 ans. Je n'ai plus aucun entretien.
Vous parlez dans votre livre des job dating. Ça consiste en quoi, ça ?
Alors, on a rendez-vous avec des recruteurs, et on a entre 5 et... Oui, non, pas 10 minutes. On a entre 5 et 7 minutes environ pour se vendre. Voilà. Alors on fait la file hein, pendant 1 heure, donc dans des conditions qui sont pas terribles, hein, parce que bien souvent on a chaud, on est habillé pour la circonstance, donc le maquillage dégouline, on est mal coiffé à la fin, on a mal aux pieds parce qu'on fait comme ça plusieurs recruteurs. Et puis une fois qu'on est devant le recruteur, après on en a une dizaine entre 10 et 20 personnes derrière soi hein, qui attendent, donc on sait dans quel état ils sont puisque nous on en vient, et donc il faut se vendre en 5 ou 7 minutes, il faut faire très vite. Et on finit par déposer le CV, reprendre la carte de visite du recruteur, courir sur les autres files et faire les autres recruteurs et ainsi de suite. Et puis vite rentrer à la maison, vite se mettre à l'aise et vite répondre aux recruteurs, dire mais je vous remercie de l'accueil que vous m'avez réservé, j'ai bien noté, etc. etc. et envoie. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un certain mépris de la part des des recruteurs face à des gens qui cherchent du travail?
Mépris, je sais pas, ça me ferait de la peine de dire ça, mais je dirais que tout le monde est lancé dans une espèce de bataille qui est complètement... dans une relation qui est complètement déshumanisée, quoi. Je sais pas s'il y a du mépris. Pour certains, moi j'en ai rencontré, oui. Ouais, j'en ai rencontré. Il m'est arrivé de pleurer, hein, souvent. Il m'est souvent arrivé de pleurer à la sortie d'un job dating ou d'un entretien dans des sociétés temporaires, même chez des recruteurs. Oui, ça m'est arrivé, oui. Je suis désolée d'avoir à le dire, mais de l'indifférence, beaucoup d'indifférence. Alors, faut surtout pas être humain, hein, faut surtout pas... Moi, j'ai voulu jouer la carte de être humain, vous voyez. Et on m'a clairement fait comprendre que ça, c'était pas professionnel.
Donc ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à être moins humain. Mais quand on est humain, quand ça fait partie de nous, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais moi, il m'est arrivé un jeune recruteur. Il était d'une gentillesse, il était vraiment très gentil. Il était professionnel, gentil. Mais et puis je ne sais plus pour quelle raison il en est venu à me parler de son. Je ne sais pas pourquoi. Il en est venu à me parler de son papa qui était gardien de la paix. Mais c'est une fulgurance. Et je me souviens lui avoir fait un grand sourire et lui avoir dit, ben, mon papa aussi était gardien de la paix, etc. Et hop, tout de suite, il a recadré la conversation en me disant, faut surtout pas parler de choses personnelles. Alors, est-ce que c'était un test? Je sais pas. Mais il faut plus parler de choses personnelles. Là où avant, ça pouvait être une reconnaissance, vous voyez, ça pouvait être quelque chose, se dire, tiens, ah ben oui, mon père aussi, il était flic. Vous voyez, parler, échanger. Non, mais ça, c'est fini. Ça ne se fait plus, ça.
Vous avez vécu de nombreuses expériences face à des recruteurs, des expériences que vous relatez dans votre livre, hein, ce livre qui s'intitule « Le dernier salaire » publié chez XO Documents. Et c'est à travers votre témoignage aussi, c'est tout un tas de conseils pour nos auditeurs et des personnes qui peuvent être aussi confrontées à ce genre de situation.
Oui, moi ce que je conseille aux gens maintenant, a posteriori, c'est de toujours avoir confiance en eux. Il faut absolument, s'ils ont des plans de reclassement, qu'ils aillent à ces plans de reclassement, qu'ils suivent tous les conseils qu'on peut leur donner, qu'ils lisent tous les livres qui sont parus, et puis surtout qu'ils ne restent pas seuls, qu'ils aillent rejoindre des groupes de chercheurs d'emploi toutes catégories confondues, tous âges confondus, qu'ils assistent au petit déjeuner des entrepreneurs. Il faut bouger, il faut se lancer dans la bataille, il faut bouger, il ne faut pas chercher du travail comme moi je l'ai fait 7 heures par jour, et enfin plus que ça, du lundi matin au dimanche minuit. Il faut s'accorder du temps et il faut appliquer les bonnes techniques de recherche d'emploi et il faut garder confiance en soi et il faut pas se laisser impressionner.
Chercher du travail, c'est du travail, donc il faut aussi avoir des temps de pause, ça c'est important, et surtout ne pas s'isoler.
Il faut pas s'isoler. Si on a un réseau, il faut faire travailler son réseau, ou alors il faut s'en créer un. Il faut utiliser tous les réseaux sociaux qui existent. Et puis ne pas se perdre comme moi je l'ai fait. Moi j'étais trop souvent partout. Et donc ça donne l'image de quelqu'un de dispersé. Alors qu'en fait je voulais juste trouver un emploi. Il faut... on est en guerre et il faut appliquer une stratégie de guerre. Voilà, c'est comme ça. Il faut appliquer une très bonne stratégie et il faut s'y tenir.
Margot Gilquin, je vous remercie d'être venue témoigner sur Vivre FM. Je rappelle votre livre, il s'intitule « Le dernier salaire », c'est publié aux éditions XO Documents.
Merci à vous, merci beaucoup.
Vivre FM, podcast.